Dans ce journal, on parlera des inégalités face aux protections menstruelles, mais aussi d'un bijoutier sauveur de récifs coralliens, et on évoquera bien sûr le Championship Tour. Et ce journal, c'est avec Charlotte Folana. Bonjour Charlotte.
Bonjour Kevin, bonjour à tous.
Des inégalités face aux protections menstruelles.
Et oui, lever le tabou sur l'inégalité face aux protections menstruelles, c'est ce que souhaitent les membres de l'Union des femmes francophones en Océanie. Alors que la question des règles concerne toutes les femmes pendant une période de 35 ans de leur vie en moyenne. Dans le monde, 500 millions d'entre elles vivraient dans la précarité menstruelle. Une problématique qui est aussi rencontrée par une bonne partie des 80 000 vaïnées menstruées du Fénois et qui peut s'expliquer par les prix élevés des protections périodiques. Selon l'UFFO, le coût moyen d'une protection hygiénique en Polynésie serait de 145 francs, un montant en conséquent qui contribue à la fracture sociale. On écoute Armel Merceron, membre de l'Union des femmes francophones en Océanie, au micro de Vaitiré Gobry.
On pense que si le prix était plus bas pour toutes les femmes, si éventuellement une partie des protections était en PPN, pour nous, ce serait déjà un point positif parce que ça abaisserait le coût. Mais il ne faut pas cacher que derrière ça, même si on baissait les marges, il y aurait quand même un certain nombre de femmes qui utiliseraient des moyens, si le papier de toilette, chiffon, etc. Il ne faut pas se leurrer, c'est la réalité.
Pour remédier à ces situations, plusieurs actions ont été menées ces dernières années sur le plan local. On se souvient entre autres en 2019 du projet Ladybox porté par le ministère de la Solidarité et qui avait permis de récolter 3000 produits d'hygiène féminine. Ils avaient été redistribués à des associations. Une campagne pilote avait aussi été lancée sur la dernière période scolaire. Il était proposé aux collégiennes de Henri Hérault et du collège de Papala, un distributeur à accès gratuit de serviettes hygiéniques. Une opération qui avait fait mouche et qui prouve qu'il y a une réelle nécessité.
C'est vraiment un besoin et que ce sujet n'était pas suffisamment abordé. Il était un peu tabou, caché. Alors la question des règles, ça se règle justement dans l'intimité, mais malheureusement, quelquefois avec des moyens indignes et qui provoquent de l'absentéisme scolaire. Au moment où elles ont leurs règles, elles ne veulent pas non plus faire du sport parce qu'elles se sentent mal à l'aise, parce qu'elles sont mal protégées.
Et dans la continuité de ce projet, l'Union des femmes francophones en Océanie élargit son programme et surtout son champ d'action en proposant cette année des distributeurs dans d'autres établissements, mais aussi dans des maisons de quartier. Au total, près de 1300 jeunes filles pourront disposer de protections hygiéniques gratuites dans le courant de l'année 2022-2023.
Quel avenir pour la maison de la reine Marao ?
Et oui, c'est la question que tout le monde se pose. L'un des anciens propriétaires de la maison, qui est aussi descendant de la reine Marao, espère une action pour préserver le patrimoine historique laissé par son aïeul. La maison d'habitation a été vendue avec la parcelle pour cause de conflit familial et son avenir reste incertain. Ranui Donassan assure qu'il mettra à disposition du pays tout le mobilier dont il dispose ainsi que des objets précieux.
Bien entendu, si le pays fait quelque chose, je serai le premier à participer en leur fournissant, en fin de compte, tout le mobilier de la maison. Si jamais il sauvegarde cette maison par X et Y stratagèmes qui m'échappent pour le moment, je suis tout à fait prêt à regarnir cette maison qui permettra aux futurs visiteurs de visiter quelque chose qui était exactement comme à l'époque la reine Marao, puisque moi je ne vais garder rien. Tout le mobilier retournerait, je dis bien entre guillemets si ça se passe, dans cette maison, les tableaux, tout.
Et pourtant, il y a déjà eu au moins une tentative de sauvegarde. Ranui Donassan évoque en 1971 la signature d'une charte initiée par Rudy Bainbridge. Difficile de savoir pourquoi rien n'a été encore fait, mais il estime qu'il n'est jamais trop tard. En attendant, il évoque le plan général d'aménagement de Papeete, obligeant à construire sur ce terrain uniquement des bâtiments à vocation administrative.
Il y a eu plusieurs tentatives. Je sais que lorsque la princesse Tekao a fait publier son livre lors d'une soirée mémorable au musée Gauguin à Papeete en 1971, Rudy Bainbridge à l'époque et Gilles Arthur, qui était le conservateur du musée Gauguin, avaient monté un comité où ils avaient fait une espèce de charte pour la sauvegarde de la maison de la reine Marao. Bon, ça a été un pétard mouillé parce que jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais rien donné. Donc voilà, moi je me pose aussi la question, mais par contre, il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut le faire.
Voilà, Ranui Donassan au micro de Marao Birai.
Un bijoutier s'engage dans la protection des récifs coralliens.
Il s'agit d'Emmanuel Tarpin, un créateur parisien de haute joaillerie qui veut utiliser ses pierres précieuses au profit de Coral Garners, une association polynésienne basée à Moréa et qui a lancé une offensive sur les réseaux sociaux depuis 2017 pour faire connaître les risques qui pèsent sur les récifs et pour financer des solutions innovantes de protection. Emmanuel Tarpin, passionné de nature, est déjà engagé auprès de programmes de protection en a entendu parler par un professeur de plongée aux Maldives, voilà quelques mois. Et le projet de Coral Gartner a tout de suite emballé le joaillier. Écoutez-le au micro de Charlie René.
Et donc j'ai trouvé ça passionnant. Donc en fait, j'ai commencé à regarder ce qu'ils faisaient. Je vais voir leur site, leur Instagram. J'ai commencé en adoptant un corail. C'est ce qu'ils proposent sur leur site. On a commencé à échanger. Je leur ai expliqué que moi, j'étais dans la joaillerie, que j'aimais beaucoup ce qu'ils faisaient, que je trouvais ça inspirant et passionnant. En fait, on a discuté ensemble et je leur ai proposé de les aider dans leur organisation. Donc dans mon travail, en fait, je suis très inspiré par la nature. Donc en fait, ça faisait sens. C'est-à-dire, vu que la nature est mon inspiration et que je suis joaillier, je trouvais ça intéressant de mêler mes deux passions pour les voyages, pour l'environnement et pour la joaillerie.
Emmanuel Tarpin qui nous parlait depuis New York il y a quelques minutes maintenant. Le joaillier qui est venu travailler aux côtés de Coral Gartner courant septembre pendant près d'un mois s'inspire donc de l'univers sous-marin pour créer des pièces uniques. Une broche méduse ornée de diamants, des formes coralliennes dorées ou qui rappellent le bleu du lagon. L'idée de reverser une partie des bénéfices à l'association et il ne s'agit pas seulement d'un soutien ponctuel.
C'est plus dans l'idée d'une collaboration à long terme. Donc, je fais des pièces parfois qui sont inspirées par l'univers océanique. Donc, comme la première pièce qui est la méduse. Et en fait, quand je vends cette pièce, en fait, une grande partie des bénéfices, je leur ai reversé pour les aider dans leurs travaux. Là, j'ai une paire de boucles d'oreilles inspirées directement du corail qui va sortir. Il y a une autre pièce qui va être inspirée des lagons qui va également sortir, donc bien sûr, ça a été très inspirant.
Un partenariat qui a déjà eu un écho jusque dans les colonnes du New York Times. Pour acquérir une des pièces d'Emmanuel Tarpin, pas de catalogue ou de magasin, il faudra prendre contact avec lui directement sur son site, puisqu'il ne crée que des pièces uniques et qui se chiffrent en millions de francs. Pour aider Coral Gartner, il suffit d'adopter un corail en ligne à partir de 3000 francs.
Petite mobilisation à Témé ce week-end.
Après un report pour cause de météo en novembre, la nouvelle fédération Tae Aati Yamore a organisé ce samedi la deuxième édition de son rassemblement éponyme. Le programme était sensiblement le même qu'en novembre 2021. Des discussions, des cérémonies culturelles pour demander un développement raisonné de Morea. Samedi, près de 200 personnes s'étaient rassemblées avec leurs propres tresses de Aoti et une cinquantaine d'autres nageurs ou surfeurs se sont mis à l'eau pour une nage symbolique jusqu'à Petau. Un peu de monde donc, mais beaucoup moins que le millier de personnes de l'année dernière. Pour le président de la fédération, Raïti Buchin, ce n'est pas une surprise. Écoutez-le au micro de Charlie René.
On n'avait pas le même objectif que l'année dernière, à savoir de vraiment mobiliser la masse. Cette fois-ci, pour nous, c'était juste de marquer le coup, les un an du Tarei, mais surtout de remercier un peu la mère pour tout ce qu'elle nous donne. Donc nous étions montés déjà sur le plus haut sommet de Truya il y a 2 mois pour remercier le ciel. On a remercié la terre et hier, on a remercié la mer au travers du nage du Pautaku, de la plage de Témé, jusqu'à la terre de Petau à Tiavaro.
Et la journée a tout de même été l'occasion de faire un point sur l'avancée des combats de la fédération. La pétition demandant une consultation populaire sur la privatisation de la plage de Témé rassemblait désormais 3000 signatures et le collectif va demander le soutien des parlementaires pour forcer le conseil municipal à le mettre à l'ordre du jour.
Et côté santé, un nouveau vaccinodrome à la présidence.
Face à la recrudescence de l'épidémie, le vaccinodrome de la présidence sera à nouveau opérationnel ce samedi 17 décembre. Samedi dernier, il a accueilli 752 personnes qui se sont fait vacciner contre le Covid, dont 726 rappels pour le Pfizer et 514 doses de Vaxigrippe. Le centre de vaccination de l'école d'infirmières de Mamao est également ouvert toute cette semaine, du lundi au vendredi et la semaine prochaine.
Pas de Polynésien sur le Championship Tour 2023.
Et oui, la Tahitienne Vaine Fero échoue à quelques places seulement de la qualification, mais s'impose plus que jamais comme la relève du surf français. Pas de Polynésien donc, mais deux Français sont sur le Championship Tour 2023. Le Réunionnais Maxime Husseino a décroché sa place pour le Tour d'élite de la WSL lors de la Alaiwa Challenge à Hawaï. Le Réunionnais n'est que le 8e Français à intégrer ce groupe des 24 meilleurs surfeurs du monde. Il rejoint donc Johan Defay, déjà qualifié chez les femmes et qui surfe en Championship Tour depuis déjà une décennie. Arrivée troisième, donc cette année, elle n'a jamais été si proche d'un titre mondial WSL, jamais décroché pour une ou un surfeur tricolore. On aura bien sûr l'occasion de la suivre.
Et puis sport toujours, Zorniotti survole les championnats de Polynésie.
Et oui, le patron du triathlon s'est d'abord imposé au championnat de cross-country de Polynésie devant Damien Troquenet et Sylvain Blachier et au championnat de Polynésie de triathlon, donc dimanche à Farlatea. Benjamin Zorniotti a dévancé donc Damien Troquenet et Thomas Lubin qui a complété le podium. Chez les femmes, c'est Maïdi Sucé, âgée de 16 ans, qui l'emporte pour la première fois.
Et puis les Bleus, victorieux.
Et oui, dimanche à Doha, l'équipe de France championne du monde en titre s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en battant la Pologne 3-1 grâce au 52e but d'Olivier Giroud avec les Bleus, son nouveau record, et un doublé de Kylian Mbappé. Ce samedi, ils affronteront l'Angleterre en quarts de finale. Et puis ce lundi, le Brésil a dézingué la Corée du Sud 4-1 et file en quarts de finale pour y affronter la Croatie qui a battu aussi ce lundi le Japon au tir au but. Demain, on retrouvera le Maroc face à l'Espagne et Portugal-Suisse. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à 16h pour le Flash Local.
Merci beaucoup, Charlotte.